RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions sur les ondes courtes de 9,5-200 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir, chères auditrices et chers auditeurs des quatre points du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission sera commencée par le journal, suivi les nouvelles de l'Indonésie et l'histoire d'aujourd'hui. Nous allons également présenter le magazine culturel L'Indonésie en couleur et les chansons indonésiennes. Voilà le programme pour aujourd'hui. Écoutons maintenant le journal et les nouvelles de l'Indonésie.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le programme de journal. Aujourd'hui, on commence par le titre. L'Indonésie et le Vietnam discuteront du règlement de frontières territoriales. Visite en Corée du Sud, le président Jokowi visait à renforcer la coopération économique. Le président s'est rendu en Corée du Sud pour renforcer la coopération économique. Le ministre de l'Industrie a expliqué de créer les 5 premières industries textiles au monde. Les auditeurs, voici les journaux complets. Le président Joko Widodo est accompagné de la ministre des Affaires étrangères Retno Marsudi fera une visite d'État et une visite de travail à Thi Hanoi au Vietnam du 11 au 12 septembre. Le président Jokowi discutera de plusieurs questions liées à la relation entre l'Indonésie et le Vietnam, y compris la négociation de la frontière de la zone économique exclusive avec le président vietnamien Thái Đăng Quang. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Arman Atanasir, dans sa conférence de presse à Jakarta, jeudi 6 septembre, a déclaré que les négociations de la zone économique exclusive dans la mer Natuna entre les deux pays n'étaient pas complètement terminées et cela dure depuis assez longtemps. Par conséquent, cette réunion devrait encourager l'achèvement des négociations sur la zone économique exclusive. Certaines des questions qui seront préoccupantes lors de la réunion bilatérale sont, entre autres, l'accélération de l'achèvement de négociations de la frontière de la zone économique exclusive entre les deux pays. Comme nous le savons tous, cela dure depuis longtemps, mais la négociation de la frontière maritime n'est pas facile. Et nous espérons qu'il y aura une épousée politique de deux dirigeants pour que cela puisse s'accélérer. Selon Armanata, en plus de l'achèvement de la limite de la zone économique exclusive, l'Indonésie et le Vietnam vont également coopérer dans le domaine de la pêche maritime et en particulier pour réduire la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, qui a été discutée dans un communiqué conjoint. L'émergence de la question de la pêche INN dans les eaux territoriale de l'Indonésie et le Vietnam et les excès d'un malentendu sur l'emplacement de la zone économique exclusive qui n'est pas encore décidée jusqu'à présent. Auparavant, le président Jokowi a mené des discussions liées à la zone économique exclusive avec le premier ministre vietnamien Nguyen Xuan Phuc en marge du 32e sommet de l'ASEAN à Singapour en avril. À cette occasion, le président Jokowi a encouragé le Vietnam à achever immédiatement les négociations sur les frontières de la zone économique exclusive entre les deux pays. Le président de la République d'Indonésie, Joko Widodo, accompagné de la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, se rendront à Séoul, en Corée du Sud, le 10 et 11 septembre 2018 pour effectuer une visite d'État. La visite était une réponse au président sud-coréen Moon Jae-in, qui s'est rendu en Indonésie l'année dernière. Cette visite a également été très spéciale car elle a coïncidé avec le 45e anniversaire des relations diplomatiques de la Corée du Sud avec l'Indonésie. À l'occasion de cet anniversaire, les deux pays ont convenu de renforcer la coopération économique dans le domaine du commerce et de l'investissement à travers de différents aspects. Eddy Yusuf, directeur pour l'Asie de l'Est et le Pacifique du ministère indonésien des Affaires étrangères, lors d'une conférence de presse à Jakarta, jeudi 6 septembre 2018, a affirmé que l'agenda que Jokowi accomplira lors de sa visite d'État en Corée du Sud est une rencontre bilatérale avec le président Moon Jae-in, est une réunion des affaires avec un conglomérat sud-coréen ou un homme d'affaires communément appelé Chaebol. Lors de la réunion d'affaires, le président Jokowi devrait signer 10 protocoles d'accord de l'entreprise à entreprise.
Selama di Seoul, Bapak Presiden akan mengadakan pertama pertemuan bilateral.
Pendant à Seoul, le président tiendra la première réunion bilatérale avec le président de la Corée du Sud. Il organisera également une réunion de travail. Il y en aura deux. Il y aura un forum des affaires. Il y aura aussi la réunion des hommes d'affaires ou une grande compagnie coréenne. Lors d'une réunion d'affaires avec des hommes d'affaires coréens, il est prévu de signer 10 protocoles d'accord B2B couvrant les domaines de l'automobile, de l'énergie, des transports et des infrastructures. On peut espérer que la valeur sera supérieure à $1 milliard. Eddy a expliqué que plusieurs entreprises qui participeront aux investissements en Indonésie sont notamment POSCO, Lotte, Shell Jidang ou CJ Group et Hyundai. Il a déclaré que la société POSCO, engagée dans des projets de la production de fer et d'acier qui développera une usine sidérurgique en coopération avec PT Krakatau Steel à Cilegon, Banten. Cette coopération aidera l'Indonésie dans son processus de développement de l'industrialisation. Ensuite, la société Lotte construira également un centre de traitement pétrochimique à Cilegon, et en cas de succès, ce centre de traitement sera le plus grand d'Asie du Sud-Est. En outre, dans le secteur de l'automobile, Hyundai serait en train de construire une usine ou un centre d'assemblage automobile en Indonésie. Le président indonésien Joko Widodo effectuera des visites d'État à Séoul, en Corée du Sud, le 10 et 11 septembre 2018, pour renforcer la coopération économique bilatérale entre l'Indonésie et la Corée du Sud. Le porte-parole du ministère indonésien des Affaires étrangères, Armanata Nasir, a déclaré jeudi que la ministre des Affaires étrangères, Mme Retno, accompagnerait le président à Séoul, en Corée du Sud. L'un des objectifs de la visite était de renforcer la coopération économique, en particulier dans le contexte économique mondial actuel. La visite du président Jokowi en Corée du Sud était une visite réciproque de la visite du président sud-coréen en Indonésie l'année dernière. La visite du président indonésien à Séoul a également coïncidé avec le 45e anniversaire des relations diplomatiques entre l'Indonésie et la Corée du Sud. Par ailleurs, le directeur du ministère des Affaires étrangères de l'Asie de l'Est et du Pacifique, Eddy Yusuf, a déclaré que la visite du président Jokowi visait à renforcer la coopération économique entre la République d'Indonésie et la Corée du Sud, notamment dans les domaines du commerce, de l'investissement et de l'industrie. Le ministre de l'Industrie, Erlangga Hartarto, croit que le secteur des textiles et des produits textiles est en mesure de faire face à la concurrence internationale car sa compétitivité est élevée, de sorte qu'il est ciblé dans le monde entier. Par conséquent, le gouvernement continue à stimuler la performance de l'industrie textile. Ce secteur est classé comme à forte intensité de main-d'œuvre et orienté vers l'exportation, ainsi apporte une contribution significative à l'économie indonésienne. Erlangga a déclaré à Jakarta jeudi que cela était encouragé car sa structure industrielle avait été intégrée d'amont en aval et ses produits étaient également réputés pour leur qualité sur le marché international. Plusieurs étapes stratégiques ont été préparées afin que l'industrie textile nationale puisse entrer dans l'ère numérique, y compris pour les 3 à 5 prochaines années. Le ministère de l'Industrie se concentrera sur le renforcement des capacités du secteur en amont pour accroître la production de fibres synthétiques. Les efforts qui sont faits, entre autres, d'établir une coopération ou attirer des investissements des sociétés produisant des fibres de qualité. Il vise également à réduire les importations, a déclaré Erlangga.
Les nouvelles de l'Indonésie. Les informations uniques et intéressantes de plusieurs régions d'Indonésie.
Chers amis, nous continuons notre émission avec les infos de l'Indonésie, un programme qui présente diverses infos intéressantes de divers coins de l'Indonésie dans une semaine. La première info vient de Sanggau, Kalimantan de l'Ouest. Le régent de Sanggau, Paulus Hadi, a officiellement inauguré la grande performance de Paradis Pasaka Negeri, est le 10e festival culturel malaise en région Sanggau dans la cour du palais Surya Negara, Sanggau, mercredi 5 septembre. Ce grand événement s'est déroulé du 5 au 8 septembre, animé par divers concours et jeux folkloriques. L'événement a été précédé par le rituel Paradis Pasaka Negeri, ou le nettoyage du pays par la lecture de versets sacrés autour de la ville Sanggau, suivi par près d'un millier de personnes. Procédez ensuite au rituel de Tolak Ajong sur la rivière Kapuas devant le palais Surya Negara Sanggau. Cette procession a été effectuée par le roi de Sanggau, le prince Ratu Surya Negara Gusti Arman, ainsi que par les anciens accompagnés du régent de Sanggau, Paulus Hadi, des officiels de Sanggau et des rois de Kalimantan de l'Ouest. Le roi de Sanggau a exprimé son appréciation au gouvernement de la région de Sanggau pour son soutien afin que l'événement annuel puisse avoir lieu à nouveau. Paradis Pasaka Negeri est inclus dans le patrimoine non objet par le gouvernement central. Ensuite, l'info de Martapura, Kalimantan du Sud. La communauté de la tribu Dayak Paramasan, en région de Banjar, Kalimantan du Sud, a organisé Aruh Ganal, une cérémonie traditionnelle à grande échelle en guise de gratitude pour la récolte abondante. Le chef de village de Paramasan Bawa, Suwardi, dans la ville Martapura, a déclaré lundi qu'une grande fête traditionnelle avait eu lieu 9 jours et 9 nuits depuis le jeudi 27 août 2018. Selon ce roi dit, des cérémonies traditionnelles ont eu lieu assistées par les chefs traditionnels, le gouvernement local et l'armée nationale et la police indonésienne. Diverses processions ont eu lieu telles que la danse Babangsai jouée par un certain nombre de jeunes hommes et femmes de Dayak Paramasan, ainsi que la danse Babalian à laquelle ont participé les Dayak dans le district. Le chef de la culture du Bureau de la culture et du tourisme de Banjar, Yuwana Karta Abidin, a déclaré que Paramasan est l'une des zones de Banjar qui respecte encore les coutumes. La dernière info vient de Padang Panjang, Sumatra de l'Ouest. Le service de bibliothèque régionale de Padang Panjang, Sumatra de l'Ouest est maintenant disponible en format numérique pour faciliter l'accès à la collection de la bibliothèque. Le chef de la bibliothèque du bureau de la bibliothèque et des archives de Padang Panjang, Yoni Aldo, à Padang Panjang, a déclaré mercredi que ce service était présent pour accroître l'intérêt de la lecture. La bibliothèque numérique peut être téléchargée par les utilisateurs Android via Play Store en tapant le mot-clé e-library Papa. Pour pouvoir utiliser l'application, les utilisateurs doivent d'abord s'inscrire ou créer un compte et en remplir un certain nombre de données personnelles et télécharger des photos d'eux-mêmes. Yoni Aldo cible les bibliothèques régionales en tant que centre d'apprentissage pour la communauté. Bien que des services numériques soient disponibles partout, les activités de la bibliothèque sont maintenues en organisant des activités d'apprentissage pour les enfants et des discussions sur les potentiels de la région. Ces efforts montrent que la région mérite d'être proclamée ville d'alphabétisation. C'était les infos de l'Indonésie.
Les fêtes historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Chers amis, nous continuons notre émission avec l'histoire d'aujourd'hui, le 8 septembre. Nous commençons par l'établissement du pacte de défense de l'Asie du Sud-Est. Le pacte de défense pour l'Asie du Sud-Est, ou SEATO, est une organisation internationale de défense collective étant signée le 8 septembre 1954 à Manille, aux Philippines. L'institut formel SEATO a été créé lors de la réunion des partenaires à Bangkok en février 1955. Cette organisation a été créée pour empêcher le développement du communisme en Asie du Sud-Est. Et le siège de l'organisation est situé à Bangkok, au Royaume Thaï. SEATO a été dissoute le 30 juin 1977. Le 8 septembre 2004, Muhammad Yusuf est le commandant le plus proche et aimé par les soldats. Durant son mandat de ministre de la Défense et de la Sécurité de la République d'Indonésie et commandant des forces armées, ce général 4 étoiles a très souvent visité le dortoir des soldats. L'un des meilleurs fils de la nation et ancien président de l'Agence suprême d'audit, né à Kayuara, Bonesut, le 23 juin 1928, est décédé à l'âge de 76 ans à Makassar en raison de maladie. Muhammad Yusuf est considéré comme un personnage national qui a d'énormes services dans l'histoire du développement à Sulawesi du Sud et en Indonésie. Muhammad Yusuf est un combattant strict, honnête, propre et courageux. Le peuple indonésien a vraiment perdu l'un des meilleurs fils et modèles qui a continué à se consacrer à la nation et à l'État jusqu'à la fin de sa vie. Le 8 septembre, la Journée internationale de l'alphabétisation. La Journée internationale de l'alphabétisation est célébrée chaque 8 septembre. Créée le 17 novembre 1975 par l'Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture, ou l'UNESCO, Elle est célébrée par tous les pays du monde en tant que mouvement visant à éliminer l'analphabétisme. L'alphabétisation est la capacité que chaque être humain doit avoir pour communiquer, accroître ses connaissances et survivre. Au niveau national, l'Indonésie commémore également la Journée internationale de l'alphabétisation. La célébration de la Journée internationale de l'alphabétisation devrait constituer la base de l'éradication de l'analphabétisme en Indonésie. Jusqu'à présent, les efforts visant à éliminer l'analphabétisme en Indonésie ont donné des résultats positifs. Le ministère indonésien de l'Éducation et de la Culture affirme qu'en 2005, le pourcentage d'analphabètes en Indonésie a atteint 9,55%. Cependant, ce chiffre a diminué en 2014 à environ 3,76%. C'était l'histoire d'aujourd'hui.
Indonésiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Bonsoir tout le monde, voici la rubrique de mon Indonésie dont le titre d'aujourd'hui est « Répondre à la dynamique mondiale, le gouvernement augmente la taxe d'importation ». La ministre des Finances, Sri Mulyani Indrawati, a récemment signé le règlement du ministre des Finances en matière d'impôt sur le revenu sur les produits importés. Sri Mulyani a imposé la taxe pour contrôler le déficit du compte courant. Lors d'une conférence de presse au ministère des Finances mercredi 5 septembre, Sri Mulyani a expliqué que plus de 1100 types de marchandises avaient été prélevés en taxes à l'importation. Sri Mulyani a divisé les trois catégories de biens et leurs raisons. 210 produits avec des taux d'impôt sur le revenu sont passés de 7,5% à 10%. Sont inclus dans cette catégorie les articles de luxe tels que les voitures complètement construites et les grosses motos. Ensuite, il y a 218 articles de produits, article de 22 dont le taux d'imposition sur le revenu est passé de 2,5 à 10%. Les marchandises incluses dans cette catégorie sont tous des biens de consommation dont la plupart peuvent déjà être produits dans les pays, comme les produits électroniques tels que les distributeurs d'eau, la climatisation, l'éclairage ainsi que les besoins quotidiens comme savon, shampoing, cosmétiques et ustensiles de cuisine. Le taux d'imposition sur le revenu article 22 de 719 articles est passé de 2,5 à 7,5%. Les produits de cette catégorie comprennent les matériaux de construction tels que des céramiques, des panneaux, des équipements électroniques comme des câbles audiovisuels, des boîtes, des haut-parleurs ainsi que des produits textiles tels que pardessus, polos et maillots de bain. Bien que les taux d'imposition sur les revenus pour plus d'un milliard d'autres importations des biens de consommation ont augmenté, Sri Mulyani veille à ce que la décision a été par un examen approfondi et de la coordination avec le ministère et les institutions compétentes telles que le ministère de la coordination des affaires économiques, le ministère de l'industrie, le ministère du commerce et le bureau de l'état-major présidentiel. Sri Mulyani a ajouté « L'importation n'est pas une mauvaise chose. Cependant, le gouvernement doit maintenir la croissance économique de sorte que le règlement du ministère des Finances soit pris. » Selon Sri Mulyani, dans la situation actuelle, l'utilisation de produits de luxe n'est pas importante pour l'Indonésie. L'essentiel est la stabilité de la balance commerciale de sorte que l'économie reste stable dans les conditions économiques mondiales chaotiques. Cependant, le ministère de l'Industrie, Erlang Hartarto, étant aussi présent dans la conférence de presse, estime que l'ajustement de tarifs 22 est une forme de partialité envers l'industrie nationale. Cette politique de contrôle des importations vise à maintenir la croissance industrielle nationale, à accroître l'utilisation des produits locaux et à améliorer la balance commerciale. Erlang a expliqué l'article 22 du taux d'imposition est un paiement anticipé de l'impôt sur les revenus qui peut être crédité et peut être payable à la fin de l'année d'imposition. Pour cette raison, la hausse des taxes à l'importation ne va pas peser sur le secteur manufacturier. Les coûts de production peuvent être réduits car l'industrie est orientée vers l'utilisation des matières premières nationales. Son impact à long terme peut créer l'indépendance de l'industrie manufacturière nationale. Le règlement sera contenu dans le règlement du ministre des Finances qui s'appliquera la semaine prochaine ou 7 jours après avoir été signé par le ministre des Finances le mercredi 5 septembre. C'était mon Indonésie.
Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le Magazine Culturel, Pesona Indonesia.
Bonsoir à tous. Nous continuons notre émission avec le magazine culturel introduisant la plage Jumut Batu Nusa Lembongan. Restez toujours avec nous au service mondial de Radio République Indonésia, la voix de l'Indonésie. La plage de Jumut Batu est située sur l'île Lembongan, village Jumut Batu, district Nusa Penida, en région Klungkung, Bali. La plage de Jumut Batu Nusa Lembongan, d'une longueur d'environ 4,6 km, est connue comme un site touristique offrant une beauté naturelle spectaculaire de la mer. Sa belle nature est la vie des habitants qui utilisent encore les méthodes traditionnelles dans tous les aspects de leur vie quotidienne, rend cette plage intéressante à visiter. L'île Nusa Lembongan est légèrement différente de celle Bali. Ici, il fait plus chaud et le soleil sur l'île Nusa Lembongan est plus chaud et il pleut rarement ici. La plage de Jumut Batu sur l'île Nusa Lembongan a le sable blanc et l'eau de mer claire et bleue rend cette plage charmante. Vous aurez également accès à des vues de bateaux de pêche alignés proprement sur la plage. C'est parce que certains résidents locaux gagnent leur vie en tant que pêcheurs. La région wallonie avec des arbres verts s'étend d'est en ouest. De la plage Jumut Batu Nusa Lembongan, vous pouvez également voir les majestueux monts Agung situés sur l'île Bali à distance. Cette plage produit également des algues. Ici, vous pouvez voir le processus de récolte des algues. Et le plus mémorable est que dans la partie principale de la plage, vous pouvez également profiter du magnifique panorama du coucher de soleil. La plage de Jumut Batu Nusa Lembongan est assez bondée. En plus du tourisme, il sert également de quai pour les bateaux rapides venant de Bali à l'île Nusa Lembongan. Allez à la plage de Jumut Batu Nusa Lembongan, de l'embarcadère de la plage Sanur, vous pouvez utiliser un bateau ou un bateau rapide d'environ 30 à 45 minutes. Une fois atterri à la place de Jumut Batu, vous n'avez plus besoin de prendre un autre moyen de transport. La plage utilisée comme jetée est située sur la partie principale du littoral, alors que la zone qui peut être utilisée pour la baignade ou la plongée en apnée est à l'est. Les activités que vous pouvez faire ici sont la natation, la plongée en apnée, les bains de soleil, jouer au ballon de la plage et la pêche. Un certain nombre d'auberges situées le long de la plage, y compris le divers complexe de luxe qui se trouve dans les collines près de la plage, peuvent être votre choix sur l'île Nusa Lembongan. Les étals situés le long de la plage offrent une variété de plats, mais le menu préféré est le menu de fruits de mer, car elle est obtenue directement de pêcheurs qui rentrent chez eux en mer, donc elle est encore fraîche et délicieuse. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci d'être fidèles avec nous. Au revoir.
Warna-warni, l'Indonésie en couleur, présente les informations sur les femmes, les jeunes et les réussites de l'Indonésie.
Chers amis, nous continuons notre émission avec l'Indonésie en couleur, informant sur quatre événements sportifs majeurs en Indonésie après les Jeux asiatiques de 2018. Le premier événement sportif est Asian Para Games 2018. Asian Para Games 2018 aura lieu du 6 au 13 octobre 2018. Contrairement aux Jeux asiatiques, tous les matchs d'Asian Para Games 2018 auront lieu uniquement au stade principal Gelora Bung Karno à Senayan, Jakarta. Il y aura 17 sports en compétition, à savoir le tir à l'arc, l'athlétisme, le badminton, le boccia, le bowling, les échecs, le judo, le bowling, l'haltérophilie, le tir, la natation, le tennis de table, le volleyball, le basketball en fauteuil roulant, l'escrime en fauteuil roulant et le tennis en fauteuil roulant. Il y a 42 pays qui participent aux événements multisports internationaux, auxquels participent des athlètes présentant divers handicaps en Asie. La prochaine épreuve sportive est la Coupe d'Asie U19 2018 qui aura lieu du 18 octobre au 4 novembre 2018. La Coupe d'Asie U19 2018 se déroulera dans trois stades, à savoir le stade principal de Gelora Bung Karno Jakarta, le stade Bogor Pekansari et le stade Patriot Bekasi. La Coupe d'Asie de 19 ans 2018 sera disputée par 16 équipes. Le troisième événement sportif est la Coupe de futsal AFF 2018 qui se tiendra du 5 au 11 novembre 2018 à Jakarta. La Coupe AFF Futsal 2018 est un tournoi de futsal parmi les pays de l'ASEAN. Dans ce tournoi, l'Indonésie a rejoint le groupe A avec le Myanmar, la Malaisie et le Cambodge. En plus de la Coupe de futsal 2018 AFF, la Coupe AFF 2018 de Beach Soccer aura lieu en Indonésie. Ce tournoi aura lieu du 18 au 24 novembre 2018 à Bali. Dans ce tournoi, d'Asie du Sud-Est, l'Indonésie fait partie du même groupe que la Malaisie, la Thaïlande, le Vietnam et le Timor-Leste. Chers amis, c'était l'Indonésie en couleur.
Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Les auditeurs de RRI du Service mondial de la Voix de l'Indonésie, n'importe où que vous soyez, on se retrouve avec moi, Tiwi, dans la rubrique du magazine musical. Dans cette édition, je vais vous présenter les chansons d'un groupe, Alexa. Pour commencer la rencontre d'aujourd'hui, je vous présente la chanson intitulée « Wajahmu Indahkan Duniaku » ou en français « Ton visage prend soin de mon monde ». Bonne écoute.
Wajahmu terindah, satu yang sempurna, indahnya dunia ketika kau ada.
Les auditeurs, voilà la chanson d'Alexa dont le titre est « Wajahmu Indahkan Duniaku » ou en français « Ton visage prend soin de mon monde ». Cette chanson est une expression de quelqu'un qui est amoureux et parce qu'il imagine toujours le visage et le sourire de leader de cœur. Les auditeurs, Alexa est un groupe de musique formé en 2008 et toujours actif jusqu'aujourd'hui. Au départ, Alexa comptait 5 personnes, Jusqu'à la fin de l'année, Alexa est devenu très haut à la fin de 2012 et il reste Aki Singhi comme vocaliste et Nur Satriyatama comme guitariste et Fajar Arifan comme batteur. Les auditeurs, nous allons écouter la chanson s'intitulant Brighter as One, chantée par Alexa. Les auditeurs, vous venez d'écouter la chanson d'Alexa intitulée Brighter as One, ou en français, Plus lumineux comme un. Alexa, qui a réussi grâce à ses chansons romantiques, présente cette fois une chanson dont le thème est différent. Avec des paroles en anglais, cette chanson a un message de motivation pour ses auditeurs. Aucune montagne n'est trop haute ou la route est trop loin si nous faisons face ensemble. Les auditeurs, le groupe dont le fan s'appelle Alexia a produit plusieurs albums et EP. Son premier album était Alexa, publié en 2008, et Alexia Special Edition en 2009, et Edition 2 en 2010, New Alexa en 2013, et Dulu Kemarin Sekarang en 2015. En général, le genre de musique porté par Alexa est pop. Alors les auditeurs, c'est tout le magazine musical d'aujourd'hui qui vous présente les chansons d'Alexa. Et pour la terminer, je vous donne deux chansons de Alexa dont le titre sont « Dewi » ou en français « Déesse » et « Jangan pernah pergi » ou en français « Ne jamais aller ». Bonne écoute et au revoir.
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/frenca.
chers amis, un grand merci de votre fidélité d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Avant de terminer cette émission, nous présenterons les musiques indonésiennes. Merci à tous et à bientôt!
Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie. RRI World Service, la voix de l'Indonésie, est le service international de RRI. Nous diffusons tous les jours à travers les ondes courtes sur 9525 kHz par le site www.voinews.id/FRENCH ou par l'application RRI Play. RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, la voix de l'Indonésie.
Suivez nos émissions tous les jours sur les ondes courtes de 9 5 2 5 kHz. Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, La Voix de l'Indonésie, RRI au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5, Jakarta 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @voiindonesia ou bien Instagram voice-of-indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.